Accent d'Europe, Catherine Roland.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht.
Bonjour à tous. L'Allemagne, toujours en deuil après l'attentat dans un marché de Noël à Berlin qui a fait 12 morts et des dizaines de blessés. Alors que la chasse à l'homme se poursuit pour trouver le chauffeur du camion, c'est aussi l'heure du recueillement, mais aussi celle de l'incompréhension et enfin celle de la prise de parole sur les réseaux sociaux. Bonjour Evmino.
Bonjour Catherine.
Alors oui, hein, c'est devenu un rituel, Eve. À chaque tragédie, la communauté des internautes se mobilise sur les réseaux pour afficher son soutien, sa colère, sa désolation. Les mêmes images, les mêmes messages sont publiés des centaines de milliers de fois et les tristes événements de Berlin lundi soir n'ont pas dérogé à la règle.
Non, vous l'avez dit Catherine, c'est devenu un rituel sinistre dont on se passerait bien et qui montre toute notre impuissance devant ces événements atroces dont nous sommes devenus des spectateurs quasiment en temps réel. Par exemple, de mon côté, c'est en recevant une dizaine de notifications Facebook assurant que plusieurs connaissances étaient en sécurité que j'ai compris qu'il y avait certainement eu un attentat à Berlin. Les réseaux sociaux ont donc prouvé qu'ils savaient être plus rapides que les médias traditionnels.
Notre rituel, hein, la propagation de fausses rumeurs ou de hoax, comme on dit sur le net.
Oui, des montages rapides qui remettent en question les versions officielles, forcément succinctes, diffusées dans les premières minutes. La police allemande a d'ailleurs elle aussi demandé sur les réseaux sociaux de ne pas se faire le relais de ces allégations, toujours un peu les mêmes d'ailleurs, hein, des théories complotistes, la diffusion de fausses photos de soi-disant responsables, qui est en réalité un rappeur allemand, un youtubeur allemand ou encore un humoriste américain, rien à voir, et de fausses revendications des attentats. Fausses rumeurs, mais aussi vrai soutien. Heureusement, celui de millions d'internautes compatissants et solidaires. Le hashtag Pray for Berlin a par exemple été partagé plus de 180 000 fois, avec un petit goût là aussi de déjà vu. Les déclarations Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois, se sont aussi multipliées sur les réseaux sociaux, en référence bien sûr à la fameuse phrase prononcée par le président américain John Fitzgerald Kennedy en 1963.
Oui, Eve, ce rituel au départ répondait à la spontanéité des internautes. Aujourd'hui, cela a même fait l'objet d'une étude.
Une étude menée par un jeune chercheur belge, Nicolas van der Biest, de l'université de Louvain. Elle dépeint une courbe des réactions sur les réseaux sociaux qui se confirme à chaque attentat. Une première phase où les réseaux sociaux servent surtout à chercher de l'information. Une seconde dite de transition où les messages oscillent entre la réaction et l'information avec des mots-clés de plus en plus précis. Et enfin, la troisième phase, dite d'organisation où les internautes affichent leur soutien avec un mot-clé cette fois-ci repris par tous et qui s'impose, comme ici le fameux Pray for Berlin. Le chercheur remarque d'ailleurs que cette troisième phase intervient de plus en plus tôt, nous nous habituons.
Et oui, au-delà des messages de soutien aux victimes, on trouve également les déclarations d'amour à la ville dans tous ces messages.
Oui, car pour les jeunes Européens, Berlin c'est un peu la capitale cool de l'Europe. Il y a 15 ans, personne n'y avait mis les pieds, mais aujourd'hui tout le monde rêve d'y habiter. Après Londres, Madrid, Paris et Nice, Berlin est donc rattrapé par cette vague d'attentats que connaît l'Europe et qui marque clairement un nouveau tournant dans son histoire.
Eve Minot, on se retrouve en fait l'année prochaine. Bonne fête, Eve. C'est l'une des conséquences du conflit dans l'est de l'Ukraine. Des familles déchirées, divisées. Le long de la ligne de front, dans le Donbass, les combats se sont intensifiés ces derniers jours avec plusieurs morts. À Slaviansk, au nord du Donbass, Sébastien Gobert a rencontré Zoya qui raconte son histoire.
La voix douce de Zoya Kolosovska, c'est la dernière chose que l'on attend en pénétrant sur son lieu de travail. Dans les couloirs de l'administration militaire, les hommes en uniforme défilent, pressés, l'arme à l'épaule. À 53 ans, Zoya Kolosovska travaille avec constance. Depuis plus de 2 ans que la guerre dure, son poste de fonctionnaire a pris une dimension toute particulière.
J'aime mon pays, l'Ukraine. J'habite ici, je souffre avec ce pays.
Chez Zoya Kolosovska, pas de discours va-t-en-guerre. Elle n'a qu'une seule priorité.
Tout ce que je veux, c'est que toute cette horreur s'arrête. Tout ce qu'on vit depuis 2014 et qui continue encore. Je veux qu'on arrête de tuer nos garçons. Que les mères, les sœurs, les épouses, les frères arrêtent de pleurer. C'est trop dur à vivre. Il faut que tout s'arrête et que nos gars rentrent à la maison.
En septembre, Zoya a enterré son neveu, Mikola, Kolia de son surnom. Il avait grandi avec elle et son mari à Slaviansk, au nord de Donetsk. Elle le considérait comme son fils. Kolia était marié, père de famille, Malgré tout, il s'était porté volontaire pour se battre sur le front et protéger les siens, comme il le disait.
Il lui restait un mois de service avant la fin de son deuxième contrat.
Kolia était resté sur le front plus longtemps que prévu. Sa famille était en liaison constante avec lui. Après avoir survécu aux plus terribles heures de la guerre, il leur semblait invincible. Pris dans le feu d'un bombardement de trop, il a succombé à ses blessures.
Quand ils l'ont amené, je ne pouvais pas y croire. Je répétais sans cesse, ça ne peut pas être mon Kolia, ça ne peut pas être lui. J'avais juste l'impression d'être dans un mauvais film. On l'a enterré. Il y a la pierre tombale et tout ce qui va avec. Mais je me dis que ça ne peut pas être notre Kolia. Ça doit être un autre. Lui, il doit être vivant.
Kolia est bien mort, tué par des tirs venus de l'autre côté, du côté des séparatistes soutenus par les forces russes. Dans ce conflit, il est souvent difficile de savoir qui tire contre qui, mais pour Zoya, l'ennemi a au moins un visage bien familier.
Kolia, c'était l'aîné de mes deux neveux. Le plus jeune se bat du côté séparatiste. C'était deux frères. L'un est mort pour l'Ukraine, l'autre chez l'ennemi. On ne comprend pas.
Zoya n'a plus de contact avec son autre neveu, qu'elle avait également élevé comme son fils. Elle obtient néanmoins de ses nouvelles de manière détournée.
On me dit qu'il a pleuré à l'annonce de la mort de son frère. Mais pleurer, c'est une chose. Il ne s'est pas rendu aux obsèques et il est toujours de l'autre côté. Voilà le destin de nos deux jeunes garçons.
La famille de Zoya survit, endeuillée et déchirée. Pendant des mois, le retour annoncé d'au moins un des frères, Kolia, permettait d'espérer le retour à une vie un tant soit peu normale. Aujourd'hui, Zoya ne se fait plus d'illusions. Même si les hostilités s'arrêtent, pour elle, la guerre ne se terminera jamais. We're gonna play a game that's funny.
Depuis plusieurs semaines, la presse se fait l'écho d'un nouveau scandale d'évasion fiscale, cette fois dans le monde du foot. Des stars du ballon rond sont mises en cause, dont Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real Madrid. Récompensé par un quatrième ballon d'or il y a quelques jours, il est au cœur de ces révélations. En cause, un système mis en place en Irlande pour lui éviter de régler une partie de ses impôts. Julien Lagache nous appelle de Dublin.
Dans cette affaire, la star, ce n'est peut-être pas Ronaldo lui-même, mais Multisport, un image management. Pas d'employé pour cette société installée non loin de la gare Connolly, en plein centre de la capitale irlandaise. Et pour cause, elle n'en a pas besoin, puisque, d'après les documents révélés par les Football Leaks, c'est avant tout une coquille par laquelle transitent les bénéfices marketing générés notamment par l'avant-centre madrilène. Dès 2004, son ami et agent Jorge Mendes confie à l'avocat portugais Carlos Osorio de Castro la création d'une société offshore chargée de gérer les droits à l'image de l'attaquant vedette. Elle est immatriculée aux îles Vierges où l'impôt sur les sociétés est nul, mais pour ne pas effrayer les sponsors et pour ne pas émettre de factures depuis un paradis fiscal, il faut soigner la présentation. L'Irlande est une destination plus respectable. C'est donc à Dublin qu'est créée la société Multisport and Image Management, suivie de la société Polaris. Toutes deux ont en commun d'avoir pour président un comptable fiscaliste associé au célèbre cabinet Moore Stephens, Andrew Quinn. Son nom revient dans bon nombre de contrats publicitaires de Cristiano Ronaldo. Depuis plus de 10 ans, c'est donc MIM qui collecte les revenus marketing du capitaine de la sélection portugaise. Elle reverse une partie à Polaris sous forme de commission, puis renvoie la différence aux îles Vierges en passant par la Suisse. Autrement dit, l'argent gagné en tournage de spots publicitaires pour de grandes marques d'équipements sportifs, de voitures ou de téléphonie n'est que très peu taxé grâce aux largesses fiscales de Dublin. Et pourtant, Ronaldo n'a probablement jamais remis les pieds en Irlande depuis un match amical face au Portugal en 2005. Au total, ce montage complexe aurait permis aux champions d'Europe 2016 de dissimuler aux autorités plus de 150 millions d'euros de revenus ces 7 dernières années. Une curiosité quand on sait que l'Espagne, pour attirer les grands noms du football, a voté en 2004 une loi qui exonère les footballeurs étrangers d'impôts sur les revenus marketing.
Le débat refait surface après les accusations de viol portées par Flavie Flamand à l'encontre du célèbre photographe David Hamilton qui s'est suicidé en novembre dernier. Faut-il supprimer la prescription pour les crimes sexuels ? Après l'affaire Bill Cosby, la Californie a décidé de le faire. Au Royaume-Uni, où la prescription n'existe pas, l'entraîneur de foot Barry Bennell est accusé d'agression sexuelle qui remonte aux années 80. Et en France, alors que le Parlement discute de rallonger à 20 ans la prescription pour les crimes, il n'est pas question de toucher au délai de 20 ans après la majorité pour des viols commis sur mineurs. Mais des militants donnent de la voix, à nouveau. Frédéric Lebel s'est rendu dans le bureau du collectif féministe contre le viol, qui milite pour la fin de la prescription et qui assure une écoute téléphonique pour les femmes violées.
Elles sont près de 8000 femmes chaque année à composer le 0800 05 95 95, un appel anonyme et au bout du fil, une écoutante professionnelle qui va non seulement les aider mais aussi les guider, Lucie Sabot est l'une d'elles.
Les femmes qui nous appellent concernant des faits qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, sont encore dans une urgence de libérer leur parole. Elles ont bien sûr essayé. Elles se sont heurtées à un mur de déni et de coupure d'empathie. Et on voit qu'en 5-10 minutes, le fait d'être tout simplement dans une écoute active, empathique, féministe, on peut déjà agir de façon efficace, on peut leur apporter du soulagement, les aider à libérer leur énergie, les aider à agir. Viol Femme Information, bonjour. Dire viol Femme Information, recourir aux mots qui sont dans la loi, agression sexuelle, viol, c'est extrêmement important parce que ça va les aider à s'autoriser à mettre les mots précis, les mots justes sur ce qu'elles ont subi et non pas les mots des agresseurs ou les mots que l'on nous a appris et qui euphémisent les violences. Par exemple, le mot abus, qui est complètement impropre pour parler de violences sexuelles, puisqu'on peut abuser du chocolat, on peut abuser de l'alcool. Il y a une notion de dose acceptable et de dose excessive. Or, dans les violences sexuelles, on ne veut surtout pas faire croire qu'il y aurait une dose acceptable de violences sexuelles, par exemple.
Aux côtés de la permanence téléphonique, le CFCV assure aussi parfois un accompagnement juridique. Le collectif produit aussi études et statistiques à partir de ces appels. 60% des femmes victimes de viol ou de tentatives de viol l'ont été avant l'âge de 15 ans. Et dans le cas d'inceste, la parole est encore plus difficile à libérer.
Très souvent, le père par exemple, puisque ce sont souvent des pères qui commettent des violences sexuelles par inceste, le père qui les a violées, très souvent a pu leur dire qu'il allait les initier, qu'il allait leur apprendre à être des vraies femmes. Il a pu leur extorquer quelque chose en échange de bonbons. Il a pu leur dire « viens, on va jouer ». Donc il a en tout cas mis en place des choses pour les associer à son scénario d'agresseur et pour leur faire honte. Bah oui, mais tu as dit que tu étais d'accord pour jouer, donc tu ne peux pas aller te plaindre à quelqu'un. Bah oui, mais tu sais bien que je suis médecin, personne dans la famille ne te croira. Etc. Donc là, on voit bien tous les verrous que l'agresseur met en place pour empêcher la victime de parler, d'être crue, d'être soutenue.
J'entends bien. Et on est là pour ça. On est là pour vous entendre. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous rappeler autant de fois que vous voulez.
Le collectif, tout comme le docteur Muriel Salmona, psychiatre et psychotraumatologue, milite activement pour la fin de la prescription. Le viol a des conséquences psychiques redoutables, l'amnésie traumatique et la dissociation qui empêchent la victime de parler et donc de porter plainte, parfois pendant des décennies. Un délai encore mal compris par l'entourage ou l'opinion publique.
Ça, c'est typique de la culture des violences sexuelles, la culture du viol, hein, c'est ce n'est pas vrai, elle ment. Et puis ce qui est souvent renvoyé, c'est que si on a subi quelque chose d'aussi grave, on ne peut pas l'avoir oublié. Ben, si justement, tant que l'enfant ou la personne est confrontée à l'agresseur, il y a dans le cerveau un mécanisme de sauvegarde, puisque la personne reste en danger, très important du fait de sa confrontation avec l'agresseur, et du coup avec un état de stress qui du coup serait très délétère et pourrait entraîner un risque vital. Du coup, le cerveau disjoncte en quelque sorte, et la personne se retrouve en état de dissociation, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée de ses émotions. Et cette déconnexion de l'émotion explique le fait que les personnes soient déconnectées aussi de l'événement et de la coloration affective et émotionnelle de l'événement. Tout devient gris en quelque sorte. Et du coup, elles n'ont pas du tout la possibilité ni les capacités de dénoncer ce qui leur est arrivé, de porter plainte, parce qu'elles n'ont pas accès à leurs souvenirs, à leurs émotions. Et ça, il faut souvent beaucoup de temps.
La proposition de rallonger à 30 ans le délai de prescription après la majorité pour les viols sur mineurs n'a pas été retenue par le Parlement français. On parle encore moins de la fin de la prescription. Pour Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats, de tels procès ne seraient pas réalistes.
Est-ce que 50 ans ou 40 ans après les faits, on peut prouver que au sein d'une famille, par exemple, il y a eu des faits de nature sexuelle, puisque on pourra plus retrouver les témoins, les copains du mineur, les instituteurs, pour savoir si le comportement de l'enfant a changé, s'il a manifesté des troubles à ce moment-là, qui pourraient aller dans le sens de ce que dénonce la victime. Le problème en cette matière d'agression sexuelle et de viol sur mineur, c'est que malheureusement souvent, on se retrouve avec la parole de l'un contre la parole de l'autre, et que 40 ans après, il n'y a pas d'éléments permettant d'accréditer l'un ou l'autre. Et donc du coup, faute d'éléments tangibles autres que la parole de l'un ou de l'autre, on doit acquitter ou faire un non-lieu pour la personne qui est mise en cause. Donc c'est donner un faux espoir aux victimes que de leur laisser croire que 30 ans après la majorité, on pourra faire une enquête sur des faits qui auront eu lieu du coup 40 ou 45 ans plus tôt.
Un argument que balaient les partisans de la fin de la prescription, les agresseurs s'en tiennent rarement à un seul viol, et le faisceau des témoignages des victimes, si on les recherche, pourra permettre de confondre l'accusé.
Viol femme information, c'est aussi un numéro que vous pouvez appeler, le 0800 05 95 95. C'est la surprise du dernier scrutin en Roumanie, issu de la société civile. L'Union Sauver la Roumanie a obtenu le score de près de 10% aux législatives. Pas mal pour un parti né il y a quelques mois seulement. Parmi les 30 députés qui font leur entrée au Parlement, le jeune Tudor Pop, Benjamin Ribou, l'a rencontré.
À 36 ans, ce Bucarestois est un novice en politique, mais pas forcément un débutant en communication. Pendant 10 ans, Tudor Pop a travaillé dans la publicité. Lorsque le parti s'est formé il y a quelques mois pour présenter des candidats aux législatives, il a fallu chercher des gens motivés et Tudor s'est lancé. Seule expérience à son actif, son très court passage dans le cabinet du ministre des Fonds européens de l'actuel gouvernement technocrate de Dacian Cioloș. Pour lui et pas mal de ses collègues, s'engager en politique est aujourd'hui une question d'urgence. L'USR n'a pas de programme très défini, mais il cristallise le ras-le-bol de toute une génération.
Une chose qui nous a unis, c'est que nous n'avions aucune expérience dans l'administration publique ou en politique. On a une grosse revanche à prendre après 26 années où l'on a été bercé d'illusions et berné à de multiples reprises. Nous sommes les représentants d'une génération où chacun s'est battu comme il a pu, mais où les gens se sont rendus compte qu'ils doivent aussi s'impliquer dans la vie de la cité. Il nous faut aussi lutter contre la mauvaise image dont dispose le Parlement, qui est perçu comme un repère pour la corruption, les privilèges et autres
magouilles. C'est la catastrophe de la discothèque collective où 64 jeunes ont trouvé la mort le 30 octobre 2015 qui a poussé Tudor Pop à s'engager en politique. Un drame lié à la corruption et qui aurait pu être évité, a estimé alors la société civile. À l'époque, le gouvernement de Victor Ponta a été contraint à la démission. Mais au-delà de ces attaques contre une classe politique corrompue, les motivations de Tudor sont aussi liées à l'écologie.
Dans mon cas, j'ai eu aussi envie de bouger le jour où j'ai entendu l'ancien maire de Bucarest, Sorin Oprescu, qui est actuellement poursuivi au pénal, déclarer qu'il n'y avait pas de cyclistes à Bucarest. Ça m'a vraiment révolté. J'ai créé une association pour promouvoir la mobilité en vélo. On utilise aussi une application pour enregistrer et mesurer le nombre de kilomètres parcourus par les cyclistes dans leurs déplacements en ville. Avec ça, on veut prouver que les cyclistes existent et sont actifs.
Tudor fera ses premiers pas au Parlement avant les fêtes. L'un de ses chevaux de bataille aura bien un lien avec le vélo puisqu'il compte présenter un projet de loi pour encourager ce mode de transport.
Accent, c'est déjà fini. Jusqu'à demain. Merci de nous avoir suivis à la réalisation. Il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, un peu de patience. Les infos.
Autour de la question.